à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Amélie Nothomb. On l'aime ou on n'accroche pas à ses histoires. Je me rappelle encore la lecture de son premier roman avec Hygiène de l'assassin. Une belle découverte. Amélie vient de sortir Riquet à la houppe chez Albin Michel et je vous en lis un extrait. Enceinte à 48 ans pour la première fois, Énide attendait l'accouchement comme d'autres la roulette russe. Elle se réjouissait pourtant de cette grossesse qu'elle espérait depuis si longtemps. Quand elle en avait pris conscience, elle en était au 6e mois. « Enfin, madame, vous n'aviez plus vos règles, » dit le médecin. « À mon âge, ça me paraissait normal. Et les nausées, les fatigues ?»« Je n'ai jamais été très bien portante. » Le docteur dut admettre que son ventre, à peine rond, n'était guère significatif. Énide appartenait à cette génération de femmes si petites et graciles qu'elles ne paraissent jamais des femmes et passent brutalement de l'état d'adolescente à celui de vieille petite fille. Ce matin, à l'hôpital, Énide n'en menait pas large. Elle sentait qu'il se préparait une catastrophe et qu'elle n'y pouvait rien. Son mari lui tenait la main. « Je n'y arriverai pas, » dit-elle. « Tout va très bien se passer, » l'encouragea-t-il. Mais il n'en pensait rien. Énide n'avait pas pris un gramme pendant sa grossesse. On lui assura que le bébé vivait dans son ventre. Il fallait de l'imagination pour le croire. Le docteur annonça qu'il allait pratiquer une césarienne. C'était l'unique possibilité. Les époux furent rassurés. On savait déjà qu'il s'agissait d'un garçon. Énide le considéra comme un cadeau de Dieu et voulut l'appeler Déodate. « Pourquoi pas Théodore ? C'est le même sens, » dit le mari. « Les meilleurs hommes du monde portent un prénom qui se termine en « hâte », » répondit-elle. Honora ne put que sourire. Quand les parents découvrirent le bébé, ils changèrent brutalement d'univers. On eût dit un nouveau-né vieillard. Fripé de partout, les yeux à peine ouverts, la bouche rentrée, il était repoussant. Pétrifié, Énide eut du mal à retrouver assez de voix pour demander au médecin si son fils était normal. « Il est en parfaite santé, madame. Pourquoi a-t-il tant de rides ? Un peu de déshydratation, ça va très vite s'arranger. Il est si petit, si maigre. Il ressemble à sa maman, madame. Enfin, docteur, il est horrible. » « Vous savez, personne n'ose le dire, mais les bébés sont presque toujours laids. Je vous assure que celui-ci me fait bonne impression. » Laissés seuls avec leur enfant, Honora et Énide se résignèrent à l'aimer. « Et si nous l'appelions plutôt Riquet à la houppe ?» suggéra-t-elle. « Non, Déodate, c'est très bien, » dit le nouveau père en souriant courageusement. Par bonheur, ils avaient peu de famille et peu d'amis. Ils eurent néanmoins à endurer des visites dont la politesse ne parvint pas à masquer la consternation. Énide observait le visage de ceux qui découvraient son petit. Chaque fois qu'elle constatait le tressaillement de dégoût, elle était au supplice. Après un silence crucifiant, les gens finissaient par hasarder un commentaire d'une maladresse variable. « C'est le portrait de son arrière-grand-père sur son lit de mort. » Ou « Drôle de tête. Enfin, pour un garçon, ce n'est pas grave. » Le sommet fut atteint par la méchante tante Hepsiba. « Ma pauvre Énide, tu te remets ?»« Oui, la césarienne s'est bien passée. » « Non, je veux dire, tu te remets d'avoir un gosse aussi vilain ?» Vaincus, les parents regagnèrent leur domicile où ils se cloîtrèrent. « Mon chéri, dit la mère à Honora, jure-moi que nous ne recevrons plus personne. Je te le jure, mon amour. J'espère que Déoda n'a rien capté du fiel et de la médisance de tous ces gens. Tu sais, il est si gentil. Il a essayé de me téter le sein et quand il a vu qu'il n'y arrivait pas, il m'a souri comme pour me dire que ça n'avait pas d'importance. Elle est en train de perdre la raison, pensa le père. Enide avait toujours été d'une extrême fragilité, tant physique que psychologique. À 15 ans, elle avait été renvoyée de l'école des petits rats de l'Opéra de Paris pour un motif inconnu dans l'histoire de cette auguste maison. Excès de maigreur. « Nous ne savions pas que c'était possible », avait conclu l'examinatrice. Comme la jeune fille mesurait 1,50 m, elle ne pouvait pas songer au mannequinat. Elle avait eu le brevet de justesse. La principale raison pour laquelle les professeurs le lui avaient octroyé était qu'il misait sur sa carrière de danseuse étoile. Enide n'avait pas osé annoncer à sa famille son échec et venait s'asseoir chaque matin sur le parvis de l'opéra où elle demeurait prostrée jusqu'au soir. C'est là qu'Honora, alors apprenti cuisinier à l'école de danse, l'avait repéré. Ce jeune homme de 17 ans, rond de corps et d'esprit, était tombé fou d'amour pour l'enfant chétive. « Tu pourrais trouver mieux qu'une candidate au suicide, » lui avait-elle dit. « Épouse-moi. Je ne fais pas le poids. À nous deux, nous le faisons. » Comme aucun autre destin ne l'attendait, la jeune fille finit par accepter. En matière de mariage, le code Napoléon était encore en application. L'âge minimal était de 15 ans pour les filles, de 18 ans pour les garçons. Il fallut attendre 1 an et les 2 adolescents s'épousèrent à l'église Saint-Augustin. Ils furent très heureux. Enide, à sa surprise, ne tarda pas à tomber éperdument amoureuse du garçon rond. Sa gentillesse et sa patience à toute épreuve l'impressionnèrent. Il monta vite en grade et devint chef cuisinier à l'école de danse. Les petits rats ne cessaient de venir lui enjoindre de mettre moins de beurre et de crème dans ses plats. Bien qu'Honora leur jura qu'il n'achetait plus ses ingrédients depuis longtemps. « En ce cas, pourquoi la popote est-elle si bonne ?» s'insurgèrent les jeunes ballerines. « C'est parce que je la prépare avec amour. »« L'amour fait-il grossir ? Vous êtes tout rond. C'est ma nature. Mais regardez ma femme et vous verrez comme l'amour en mince. » L'argument était spécieux. Enide avait toujours été la gracilité même. Il rassura néanmoins les petits rats qui péblicitèrent le cuistot. Plus de 30 années s'écoulèrent dans un bonheur si absolu que les amoureux ne les virent pas passer. L'épouse s'attristait souvent de ne pas avoir d'enfant. Honora la consolait en lui disant « Nous sommes nos enfants ». En effet, ils vivaient comme des gosses. Dès qu'ils quittaient ses cuisines, ils s'empressaient de rejoindre sa femme. Ensemble, ils jouaient à la belote ou aux petits chevaux. Quand il y avait la foire aux Tuileries, ils y passaient des heures. Le stand de tir avait leur préférence, bien qu'ils fussent l'un et l'autre les tireurs les plus inaptes qu'on vit jamais. Lorsqu'ils avaient mal au cœur d'avoir trop tourné dans la grande roue et trop mangé de barbe à papa, ils rentraient à pied à l'opéra en se tenant par la main. Enide n'avait pas de santé. Mais elle n'en aurait pas eu l'usage. Ses maladies, d'une bénignité de bon aloi, étaient célébrées comme celles des petites filles. Honora lui portait au lit un plateau avec des toasts à la gelée de myrtille et du thé léger. Ensuite, il débarrassait et se couchait auprès d'elle en la gardant contre lui. Son corps molletonné épongeait les sueurs de la fiévreuse ou les miasmes de la tousseuse. Par la fenêtre de leur chambre, sous les combles de l'opéra, ils regardaient Paris, qui pour eux seuls n'avait pas changé depuis Cocteau. Tout le monde n'a pas la grâce d'être des enfants terribles. La naissance de Déodate fut un atterrissage brutal. Nécessité faisant loi, ils devinrent cette sorte d'adultes qu'on appelle des parents. D'avoir été enfants beaucoup plus longtemps que la moyenne des gens les handicapait. Ils conservèrent l'habitude de se réveiller le matin avec pour première pensée leur bon plaisir. C'était toujours Honora qui se rappelait à voix haute « Le petit !» Conscient de décevoir le bébé, se fit d'emblée discret. On ne l'entendait jamais pleurer. Même affamé, il attendait patiemment le biberon qu'il tétait avec l'extase goulue d'un mystique. Comme Énide avait du mal à cacher l'épouvante que lui inspirait son visage, il apprit très vite à sourire. Elle lui en sut gré et l'aima. Son amour fut d'autant plus intense qu'elle avait craint de ne pas l'éprouver. Elle se rendit compte que Déodate n'avait rien ignoré de sa répugnance et l'avait aidé à la convaincre. « Notre fils est intelligent, » déclara-t-elle. Elle avait raison. L'enfanson avait cette forme supérieure d'intelligence que l'on devrait appeler le sens de l'autre. L'intelligence classique comporte rarement cette vertu qui est comparable au don des langues. Ceux qui en sont pourvus savent que chaque personne est un langage spécifique et qu'il est possible de l'apprendre à condition de l'écouter avec la plus extrême minutie du cœur et des sens. C'est aussi pour cela qu'elle relève de l'intelligence. Il s'agit de comprendre et de connaître. Les intelligents qui ne développent pas cet accès à autrui deviendront, au sens étymologique du terme, des idiots. Des êtres centrés sur eux-mêmes, l'époque que nous vivons regorge de ces idiots intelligents dont la société fait regretter les braves imbéciles du temps jadis. Toute intelligence est aussi faculté d'adaptation.
Welcome to Couleur FM.
Avez-vous, comme moi, jubilé en lisant la fresque « Une vie française » de Jean-Paul Dubois ? Et il vient de sortir la succession aux éditions L'Olivier, et je me fais le plaisir de vous en lire un extrait. Tous les jours, le bonheur. Ce furent des années merveilleuses. 4 années prodigieuses durant lesquelles je fus soumis à mon apprentissage fulgurant et une pratique intense du bonheur. Il m'avait fallu attendre 28 ans pour éprouver chaque jour cette joie d'être en vie au petit matin, de courir pour polir mon souffle, de respirer librement, de nager sans peur et de ne rien espérer d'autre d'une journée, sinon qu'elle m'accompagne comme l'on promène une ombre et que le soir venu, elle me laisse en l'état, simplement satisfait, abruti de quiétude et de paix, loin de ce territoire désarticulé que j'avais abandonné, et surtout loin de ceux qui m'avaient mis au monde par des voies naturelles, m'avaient élevé, éduqué, détraqué et sans aucun doute transmis le pire de leurs gènes, la lie de leurs chromosomes. Sur ce dernier point, je sais parfaitement ce dont je parle. De la mi-novembre 1983 au 20 décembre 1987, je fus donc un homme profondément heureux, comblé en toutes choses et vivant modestement des revenus que me procurait la pratique du seul métier que j'ai jamais rêvé d'exercer depuis mon enfance, pelotari. En Floride et surtout au Jai-Ailai de Miami, j'ai fait partie de ce petit cercle de professionnels de la pelote basque rétribuée à l'année pour danser sur les murs, jouer du grand-gant, fendre l'air avec une senta punta et propulser des balles de buis cousues de peau de chèvre à 300 km/h sur le plus grand fronton du monde. Un Vatican peuplé de 100 papes aux mains d'osier, frôlé par les avions de l'aéroport international de Miami et fréquenté alors par ce qui se faisait de mieux dans une ville qui, il faut bien le reconnaître, n'avait jamais été trop regardante sur la fabrique de son aristocratie. Pour pratiquer dans cette arène aux trois murs peints du vert profond des océans basques, pour jouer à ce rythme, à un tel niveau, faire simplement partie de la liturgie, j'aurais autrefois engagé des fortunes. Et voilà qu'au contraire, j'étais rémunéré par contrat à l'année pour mitrailler ces murs et faire hurler de joie 10 ou 15 000 types qui avaient parié sur moi le temps d'une quiniella avant de choisir de miser l'instant d'après sur un autre arrière. Pour cette foule de parieurs, je n'étais rien d'autre qu'un support de paris mutuels, un chien de synodrome, un bourrin d'hippodrome. Mais cette condition me convenait. Je ne jouais jamais pour eux, mais pour moi. Comme quand j'étais enfant, autiste, coupé du monde, lové dans mon gant, agrippé à ma pelote, martelant sans fin les frontons libres d'Andaille, de Saint-Jean-de-Luz ou d'Ixassou. Et puis, sachant d'où je venais, même un statut de modeste trotteur crottant du dollar, ça et là faisait mon affaire. J'avais passé mon enfance à travailler, étudier, apprendre des choses inutiles et insensées sous le regard étrange d'une famille restreinte de 4 personnes totalement déroutantes, déboussolées et parfois même terrifiantes. Mon grand-père, Spiridon Catrachilis, prétendait entre autres fait d'armes avoir été l'un des médecins de Staline et posséder une fine lamelle de son cerveau dérobée lors de l'autopsie qu'il avait lui-même pratiquée plusieurs jours après l'hémorragie cérébrale de Vissarionovitch Djougachvili. Il se suicidera en 1974 dans de singulières conditions. Mon père, Adrian Catrachilis, également praticien, faisait valoir des singularités moins exotiques, mais n'en était pas moins un homme assez inquiétant. Il disait souvent des choses incompréhensibles, criait « strofinatio » à tue-tête et sans raison, mot qui veut dire « bout de chiffon » en italien, et avait pour habitude de recevoir ses patients en short dès les premiers beaux jours. Cette excentricité ne datait pas d'hier, puisque pendant ses études, lorsqu'il assurait des gardes de nuit à l'hôpital, il était réputé pour avoir examiné ses patients en slip. Anna Gallieni, ma mère, ne remarquait pas vraiment les singularités de son mari et ne s'en inquiétait pas le moins du monde. Elle avait suffisamment à faire auprès de son frère cadet, Jules, avec qui elle partageait un petit magasin familial dédié à la réparation de montres en tout genre. Avec ce frère, elle vivait avec nous dans la maison commune. Avec ce frère, sur le canapé, elle regardait aussi tous les soirs la télévision jusqu'à ce que Jules s'endorme et pose sa grosse tête dans le creux de l'épaule de sa sœur. Jules était toujours collé à Anna et Anna toujours auprès de Jules. Ce dernier mit fin à ses jours au printemps 1981. Ma mère l'imita au début de l'été dans une mise en scène qui laissa mon père perplexe sans que cela semble pour autant l'affecter. Enfant, je grandis donc devant Spiridon, qui marinait devant sa tranche de cervelet, un père court, vêtu, vivant comme un célibataire, et une mère quasiment mariée à son propre frère, qui aimait dormir contre sa sœur et devant les litanies de la télévision. Je ne savais pas ce que je faisais parmi ces gens-là, et visiblement, eux non plus. Certes, les suicides de tous les miens mettront un peu d'ordre dans la confusion de ces liens. Ces apparentements désordonnés, cette inaptitude à s'aimer et à donner à un enfant ne fût-ce que l'image d'un peu de confiance et de bonheur. Le plus étrange, c'est que la mort traversa à plusieurs reprises notre maison et les survivants s'en aperçurent à peine, la regardant passer comme une vague femme de ménage. Je m'appelle Paul Katrakilis et je suis docteur en médecine. Je n'ai jamais exercé. Je loue un appartement sur Yalei Drive. Je possède une vieille voiture au plancher de dentelle et un vieux bateau, guère plus étanche, équipé, lui, d'un diesel Volvo auquel je confie régulièrement mon destin. Il est amarré dans une marina du sud de la ville, sans eau ni électricité. Je n'aime qu'une chose, la pelote basque, même si je suis née à Toulouse. On y construit tous les avions du monde, et pourtant la plupart des pelotaris croient ou considèrent que cette ville est une sorte de lointaine banlieue de Bayonne ou de Guernica. Et quand un Philippin ou un Argentin me demande si chez moi il y a un grand Jai Alai, je ne peux que répondre « Non, juste un fronton libre ». L'hiver à Miami, c'est la haute saison. Les Américains, des grands lacs et des régions des plaines, les Canadiens, grignotés par le froid, croient depuis toujours en l'été éternel de la Floride. Alors, saints de leur missel et de leur foi météorologique, ils remplissent les hôtels, les bars, les restaurants cubains, juifs, argentins, les casinos indiens, séminoles, et les boîtes de Nude Girls, qui fêtent Noël tous les soirs depuis que le monde est monde. Le 19 décembre 1987, nous avions joué en matinée et rempli le Jai Alai, le soir en multipliant les Kinileas jusqu'à 1h du matin. Parfois, la foule rugissait comme un moteur d'avion. À d'autres moments, elle émettait un bruit de fond sourd et profond, évoquant le ronronnement productif d'une usine au labeur. Et cette usine-là produisait de l'argent et toutes sortes de choses que peut contenir le monde, mais qui ne se disent ni se montrent. Cette usine fabriquait aussi des histoires et des légendes, des rumeurs et des crimes. En quelques années, sans doute un peu trop tracassés par la mafia, trois directeurs de Jai Alai, floridiens, avaient perdu la vie dans des circonstances fort diverses. Le premier fut abattu d'une balle dans la tête sur son parcours de golf. Le second, soigneusement découpé pour pouvoir être rangé dans la malle de sa conduite intérieure. Quant au troisième, que l'on ne retrouva jamais, il est probable qu'il ait contribué à la solidité des fondations de l'un des immeubles qui poussaient quotidiennement sur les sables fertiles des rives de l'océan. En quittant le fronton, dehors, la nuit sentait vraiment la nuit, une nuit du sud, urbaine et cuisinée, stimulante et négligée, parfumée au polo assudo des food trucks et au kérosène transpirant des 747 tout proches. Une odeur diffuse, particulière à cet endroit, bien loin des mangroves et qui se répandait à la façon d'un prégnant et invisible brouillard à mesure que tombait le soir. J'avais remporté quelques points en défense et empoché $60 de primes, des sommes qui n'avaient rien de bien extraordinaire, mais qui, à la fin du mois, me permettaient parfois de doubler les $1,800 de ma paye. Les plus grosses vedettes pouvaient gagner 8 à 10 000 dollars par mois. C'est elles qui faisaient se lever les foules et chanter les paris. Nous, nous étions les petites mains, les petits gants de l'entreprise, la classe ouvrière d'un drôle de monde qui partait chaque jour au labeur avec son casque de mineur coloré et son étrange outil de travail dont l'âme était gainée de châtaigniers coupés à lune descendante et le corps d'une armure blonde tressée d'osier. En 3 ans, j'avais acheté 3 voitures et en avais revendu 2. Une vieille Mercury Brougham qui sentait perpétuellement le vieux poisson et que l'on ne voyait plus circuler que dans de vieux feuilletons tournés au Mexique. Une Wagoner de 1964 avec un plaquage de faux noyer en plastique appliqué sur le bas des portes et la malle arrière. Avec le maigre produit de ses ventes, j'avais acquis une Karmann Gia de 1961, dont le plancher était dévoré par la rouille qui s'attaquait aussi aux ailes et aux contours des phares.
Vous écoutez Couleur FM.
Laurent Godet, avez-vous lu de lui Le soleil d'Escorta ? Magnifique. Mais je vais vous lire un extrait de son livre qui vient de paraître, Écoutez nos défaites, paru chez Actes Sud. Zurich, tout ce qui se dépose en nous, année après année, sans que l'on s'en aperçoive, des visages qu'on pensait oublier, des sensations, des idées que l'on était sûr d'avoir fixées durablement, puis qui disparaissent, reviennent, disparaissent à nouveau, signe qu'au-delà de la conscience, quelque chose vit en nous, qui nous échappe, mais nous transforme. Tout ce qui bouge là avance obscurément, année après année, souterrainement, jusqu'à remonter un jour et nous saisir d'effroi, presque parce qu'il devient évident que le temps a passé et qu'on ne sait pas s'il sera possible de vivre avec tous ces mots, toute cette scène vécue, éprouvée, qui finissent par vous charger comme on le dirait d'un navire. Peut-être est-ce cela que l'on nomme sagesse. Cet amas de tout, ciel d'Afrique, serment d'enfant, course poursuite dans la médina de Tanger, visage de Chavène, la combattante kurde aux lourdes tresses noires, tout, les noms utilisés, les rendez-vous pris, les hommes abattus et ceux protégés. Je ne peux pas, moi, sagesse de quoi, cet amas vivant ne me sert pas à être plus clairvoyant. Il ne me pèse pas non plus. Non, c'est autre chose. Il m'inspire. Je sens de plus en plus souvent mon esprit invité à explorer ce pays intérieur. La foule en colère sur la route entre Misrata et Sirte. La peur que j'essaye de contrôler, mais qui monte en moi. Le café blanc de Beyrouth, le bruit si particulier des armes lourdes dans les faubourgs de Benghazi, au milieu d'une armée rebelle en débâcle. Ces instants si nombreux, où, si j'ai cru être perdu, l'ivresse ensuite pour moi seule, d'être encore en vie, et personne pour le savoir, pour partager ce bonheur. Tout cela et les avions qui déchirent le ciel du Mali pour aller bombarder des positions que je viens de leur transmettre. La chaleur, les moments étranges de transit dans les aéroports entre deux zones de guerre où je déambule dans les duty-free sans pouvoir rien acheter, comme si cet univers-là, celui des cartouches de cigarettes sans taxes, des bouteilles de whisky en pyramide, n'était plus les miens. Tout cela est devenu un monde entier qui vit, se tord, fait ressurgir parfois au milieu de la nuit une image. Les gamins qui jouent à faire éclater les balles trouvées par terre dans les quartiers chiites de Beyrouth, la douceur d'une soirée dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur à Bamako, tout cela m'invite comme s'il y avait dorénavant un autre monde possible à explorer, à comprendre celui que je porte en moi. Et je le sens aujourd'hui, tandis que je marche le long du quai en direction de Bellevue Platz, il y a en moi quelque chose de différent, que je ne sais pas nommer, qui s'agrandit et m'aspire. Je sais que cela ne se voit pas encore. Je sais que dans quelques heures, face à Auguste, je serai celui que j'ai toujours été, Hassem Graieb. Je porterai à nouveau ce nom qui n'est pas le mien, mais auquel je me suis fait. Hassem Graieb, agent dans les services depuis plus de 10 ans. Aucun Graieb que les jeunes recrues lorsqu'il m'arrive d'en croiser boulevard Mortier à Paris lors d'une cérémonie officielle regardent avec déférence parce que, sans savoir exactement ce que j'ai fait, ils connaissent la liste des terrains d'opération où l'on m'a envoyé, Afghanistan, Sahel, Libye, Irak, et cela suffit à les impressionner. Hassem Graieb, qu'ils appellent entre eux un chasseur, et ils ont raison. J'ai mené tant d'opérations durant toutes ces années que je suis devenu un chasseur-tueur de la République qui traque sans cesse des hommes nouveaux. Pour eux tous, je serai celui-là encore, parce qu'à leurs yeux, Hassem Graieb vit toujours, identique à lui-même. Mais je sais, moi, que quelque chose grandit, qui me change et s'ouvrira peut-être un jour comme une immense gueule intérieure. Et qui sait alors ce que je ferai. Lorsqu'il m'a demandé d'où j'étais et que j'ai répondu irakienne, j'ai vu dans son regard qu'il connaissait mon pays. Il a pris ensuite un air étonné, a prononcé une phrase, une de celles que j'entends lorsque je décline ma nationalité. Ce n'est pas trop dur, mais il l'a fait justement pour que cela paraisse anodin. Je l'ai senti. Dans son regard, juste avant, il connaissait mon pays, et ce simple mot « irakienne » avait suffi à le transporter là-bas, j'en suis sûre. Plus tard dans la soirée, tandis que nous étions encore au bar, il est revenu sur le sujet et il a demandé « Où en Irak ?» J'ai dit « Bagdad ». Et là encore, j'ai vu qu'à la seule évocation du nom de ma ville, il partait là-bas en esprit. Il s'en est moins caché, il a gardé le silence longtemps, et je n'ai rien dit. Puis il a eu un sourire doux, et j'ai su que nous monterions dans sa chambre, j'ai su que nous ferions l'amour, pas seulement à cause de Bagdad, mais parce qu'il acceptait de ne plus jouer à celui qui ne connaissait pas, parce que, la seconde fois, il n'avait pas posé une de ces questions que l'on me pose si souvent. « Et tu retournes encore là-bas ?»« Non. » Il était juste resté avec les images de cette ville qui était en lui, et il avait pris son temps. J'ai tout de suite su qu'il était militaire, ou quelque chose comme ça. Je le lui ai dit, là, au bar. Avant qu'il ne me prenne délicatement par la main, comme l'aurait fait un lycéen qui veut quitter le banc avec son amoureuse pour chercher un endroit plus discret. Dans cette salle, dont l'on voyait la limate couler, et où nous étions les derniers, je lui ai dit « Militaire, n'est-ce pas ?» Et il a ri. Il n'a pas nié. Il a même dit « Ça se voit tant que ça ?» Puis une blague peut-être. « Il faut que je change de métier alors. » J'ai su parce qu'il a accepté durant toute la soirée de ne rien dissimuler et que je n'ai pas posé de questions auxquelles il n'aurait pas répondu. Il a souri lorsque j'ai dit « militaire ». Il a pris le temps de penser au paysage d'Irak qu'il a en lui lorsque j'ai dit « Bagdad ». Il n'a pas menti. Alors je l'ai suivi et nous sommes montés. J'ai trébuché, je crois, dans le couloir du troisième étage. La moquette épaisse a étouffé les bruits, mais nous avons ri. J'avais beaucoup bu et lui aussi. J'ai dû mettre ma main devant ma bouche. Dans l'autre, j'avais une de mes chaussures. J'avançais de guingois et lui riait. Sa main, là, qui me tenait par la taille, je l'ai aimée d'emblée. Je ne sais pas depuis combien de temps je rencontre des hommes dans les bars des hôtels. À Paris, à Genève, à New York, ce n'était pas le premier. J'ai commencé après ma séparation d'avec Marwan. Cela en surprend certains, parfois. Que je sois irakienne, comme si cela empêchait le désir du corps et le désespoir besoin d'aimer. Marwan aimait bien citer Éluard. C'est une des choses que j'ai gardées de lui, et le goût du sexe aussi, peut-être. Je me souviens, lorsque nous faisions l'amour à Alexandrie, dans cet appartement qu'il louait, face à la mer, pressé de profiter de ces heures qu'il avait volées à sa vie, à sa femme, au Caire, au musée. Marwan, que j'avais un peu pour moi toute seule, quelques heures par mois, ce qui faisait peut-être quelques jours par an. J'ai aimé ces instants-là. Je me croyais libre. La poésie, l'amour et les repas pris à des heures incongrues, dans la rue, sur une terrasse du port, à l'heure où les autres font la sieste ou boivent un café. J'ai aimé cela. Ensuite, il y avait la solitude, toujours, et l'attente, jusqu'à ce qu'il me quitte. Cela m'a surprise. J'étais persuadée que c'était moi qui partirais. Je me souviens de ce jour-là. Il était arrivé en retard, les sourcils froncés. Je n'ai pas vu tout de suite qu'il n'y aurait pas d'étreinte, de promenades amoureuses, et qu'il n'y aurait qu'un échange sec, rapide, et que Marouane était venue cette fois pour repartir. C'est après, oui sûrement, que j'ai commencé à dire oui aux hommes dans les hôtels. L'air est frais et vivifiant. J'aurais dû marcher d'un pas vif comme je l'ai fait si souvent en des occasions semblables. Je suis sur le point de retrouver Auguste, mon officier traitant. Il m'assignera une nouvelle mission. Tout va reprendre. Je serai Hassem Graieb ou un autre. Je serai français d'origine algérienne ou tunisienne ou libanaise. Mille vies les unes après les autres. Et le danger, toujours, pour les rendre intenses. Mais je marche lentement. Et ce qui me remplit l'esprit à cet instant, ce sont les petits cris d'excitation que ne pouvait s'empêcher de pousser le joueur d'échecs de Lindenhof. Pourquoi est-ce que je repense à lui? Je ne sais pas. Je l'ai regardé longtemps hier, pendant plus d'une heure. Je suis resté assis sur un banc face aux deux grands échiquiers que la municipalité de Zurich a installés dans ce jardin qui domine la ville, et d'où l'on voit, comme les soldats romains le voyaient déjà, couler la Limmat. J'ai regardé cet homme s'agiter en tous sens, contenant sa folie pour pouvoir jouer, de ne pas perdre le fil de la partie. Je suis resté longtemps et j'ai fini par entendre son nom prononcé par les autres, ses adversaires successifs, car il y en a eu beaucoup, étudiants, notables, retraités, qui tous finissaient par laisser leur place, dépités d'avoir perdu si vite. Ferruccio, der Verrückte. Pendant des heures, oui, de façon hypnotique, j'ai scruté ses mouvements d'épaule, ses grimaces de bouche, la façon qu'il avait de hausser les sourcils et de se pencher comme si on lui avait porté soudainement un coup au bas du ventre. Il était fou, Ferruccio, et il ne tenait pas en place, faisait de grands pas le long du damier au sol où tripotaient les pièces de bois hautes jusqu'aux genoux, comme s'il dirigeait une armée vivante. Ferruccio, c'est lui que j'entends tandis que je marche, et je pense aussi à la chambre d'hôtel que je viens de laisser derrière moi, baignée d'une belle lumière du matin, avec le lit au drap défait, cette chambre qu'elle a quittée avant moi.
Color FM 97.1.
Article extrait du livre Muse, titre « Lyrisme, ironie et audace » par Pascaline Ballant. Le 16 juin n'est pas à Dublin un jour comme les autres. La ville célèbre le Bloomsday, du nom du personnage principal du roman Ulysse. Partout où James Joyce a promené Léon Blum le 16 juin 1904. Des lectures sont organisées, l'imaginaire et le réel ont rendez-vous. Poésie, romans, nouvelles, théâtre, on cherche en vain un genre littéraire que les auteurs irlandais auraient négligé. Peut-être cela explique-t-il que l'île compte 4 prix Nobel de littérature pour une population de 4,6 millions d'habitants. La poésie irlandaise figure parmi les plus anciennes d'Europe et sa tradition perdure pratiquement sans discontinuer depuis le VIe siècle. Les premiers textes célébraient la nature et chantaient dans les contes et les sagas, exploits et déroutes des grands hommes. En dépit des vicissitudes du vieux gaélique, qui s'éteint pratiquement à la fin du Moyen-Âge, l'émerveillement pour les paysages, les arbres, les plantes, le ciel et l'attention portée aux faits héroïques ont traversé le temps et les lettres irlandaises jusqu'à aujourd'hui. Romantisme oblige, le tournant du XIXe siècle a été un moment de célébration particulier de la nature. Parmi ceux qui l'ont chanté, citons plusieurs femmes comme Lady Burrell, Mary Balfour, Charlotte Brooke ou, un peu plus tard, Speranza, nom de plume de la mère d'Oscar Wilde, qui se sont, elles, enflammées à la fois pour la cause nationale et pour la beauté de leur île. La nature que ces auteurs exaltent n'est ni grandiose ni allégorique. Il s'agit plutôt de paysages précis situés. Cette veine régionaliste est toujours vivante et dessine de fait une carte littéraire de l'Irlande. Ainsi, l'œuvre de William Butler Yeats, de John Millington Synge, d'Edna O'Brien est intimement liée à l'ouest rural et sauvage. les îles d'Arran, servent de cadre au roman de Liam O'Flaherty, L'âme noire. Au sud-est, à Wexford, le roman, La mère de John Branville, décrit un long face-à-face. Au nord, le héros de Call My Brother Back, de Michael Laherty, est transplanté avec sa famille de son île de Rathlim dans le Belfast industriel des années 1920. La même ville, deux décennies plus tard, sert de cadre au roman The Lonely Patient of Judith Hearn, publié par Brian Moore en 1955. Et cette histoire de la révolte d'une femme contre l'Église qui a gâché sa vie a été portée à l'écran en 1987 avec Maggie Smith dans le rôle principal, last but not the least, Dublin. Dublin a été une source d'inspiration renouvelée pour les écrivains. Parmi les plus célèbres, James Joyce avec Jean de Dublin ou Ulysse. Sin O'Casey et sa trilogie, L'ombre d'un franc-tireur, Junon et le Paon, et La charrue et les étoiles. James Pluckett, Strumpet City, et plus récemment, Sébastien Barry, Un long, long chemin. Ou encore Christine Dwyer Hickey, The Cold Eyes of Heaven. En 1989, Dermot Bolger conviait six de ses éminents confrères, Joseph O'Connor, Colm Tobin, Ruddy Doyle, Hugo Hamilton, et consœurs, Jennifer Johnston et Anne Henricks, à écrire avec lui un roman collaboratif situé à Finbar's Hotel, célèbre adresse des années 1920 sur les bords de la Liffey. Celui-ci va être démoli quand surgissent des événements imprévus, chaque auteur étant responsable d'une nouvelle et des occupants d'une chambre. Les textes se croisent dans ce qui a été un best-seller au Royaume-Uni. Quand elles entrent massivement en littérature à partir des années 1960, les femmes modifient le regard porté sur la nature et le cadre, s'arrachant à leur confinement en payant le prix fort. L'abandon, l'opprobre, l'exil. Leurs récits sont âpres, moins lyriques. Le climat est hostile et la maison familiale est un lieu d'oppression, la cellule villageoise ou banlieusarde une prison. Mais toujours, leur attention se porte sur des détails décoratifs, imagés, et leur lexique se fait volontiers botaniste. Un second trait caractéristique des lettres irlandaises réside dans la satire. Jonathan Swift, qui invente la fiction sur l'île au XVIIIe siècle, avec les voyages de Gulliver, excellait dans cet art. Sa modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public habille l'indignation farouche de son auteur face à la misère de ses contemporains, des atours de l'argumentation rationnelle quasi scientifique. Le remède à la misère et à la surpopulation est simple. Il s'appelle cannibalisme. La plume galope, alerte et réjouissante. Le pamphlet grince d'ironie. Le pessimisme fondamental des écrivains irlandais se pare ainsi très souvent d'un humour désespéré. Quelle que soit la période et le lieu où située une histoire, l'atmosphère est plombée, reflet d'une société sclérosée, bigote, déchirée. Loin de fermer les yeux sur les pages noires de leur histoire, les auteurs contemporains n'en finissent pas de revisiter les traumatismes et les tabous du passé. Qu'elles décrivent la décadence des familles anglo-irlandaises, Molly Keane dans le St. Charles, la grande famine par exemple, Nuala O'Fallon dans Chimère, le refoulement de l'homosexualité dans Jennifer Johnston dans Ceci n'est pas un roman, le poids de la religion, les pères ivrognes et les mères sacrifiées, la sexualité diabolisée, les filles de la campagne par exemple d'Edma O'Brien, la nécessité de fuir pour s'accomplir, les femmes écrivaines abordent les sujets les plus douloureux, sans faux fuyant, et leur voix singulière compose désormais un cœur puissant. Une autre spécificité de la littérature irlandaise tient à ce qu'elle s'est développée entre deux langues, dans un rapport dialectique souvent conflictuel. Après plusieurs siècles où le colonisateur anglais a tout fait pour l'éradiquer, le gaélique a connu un renouveau préparé par de nombreux travaux ethnologico-linguistiques au XIXe siècle. En 1896, le mouvement du renouveau celtique est lancé par trois écrivains, William Butler Yeats, Edward Marlin et Lady Gregory. Le but de ce que l'on appelle aussi la Renaissance irlandaise était de promouvoir la culture traditionnelle et d'encourager la création d'œuvres détachées de l'influence anglaise. Encouragé par l'État indépendant à partir de 1922, le gaélique, incontestablement minoritaire, n'en possède pas moins une valeur symbolique extrême et suscite régulièrement un regain d'intérêt chez les écrivains, comme ce fut le cas dans les années 1970. Un lieu commun veut que l'anglais, parlé par les Irlandais, ait conservé quelque chose d'élisabétain, à commencer par le recours au « thee », la deuxième personne du singulier, fondue depuis avec le « you » au pluriel. D'usage banal chez Shakespeare, les deux langues ont, de fait, donné naissance à une variante de l'anglais à la musicalité propre qu'exploite notamment Ruddy Doyle dans sa trilogie de baritone, aux préoccupations sociales contemporaines. Faut-il voir dans cet héritage multiple un terreau fertile pour l'expérimentation ? On serait tenté de le croire quand on considère l'évolution de la littérature au XXe siècle. Si le style de William Butler Yeats porte la trace de l'influence du modernisme, l'entreprise littéraire de James Joyce est d'une audace qui lui a donné une place centrale dans la littérature du XXe siècle. Ses contemporains ont eu quelque mal à accepter les nouvelles de Jean de Dublin, mais ils ont été plus que désarçonnés par son usage répété du monologue intérieur et par ses références à la réalité psychique plutôt que matérielle de ses personnages déjà lisibles dans « Portrait de l'artiste en jeune homme » paru en 1916. Son chef-d'œuvre « Ulysse » qui lui apporte la consécration en 1922 est clairement expérimental. Excite le fil conducteur du roman à chacun des épisodes correspond une manière littéraire différente, journalistique, scientifique, théâtrale. Installé à Paris de 1920 au début de la Seconde Guerre mondiale, James Joyce a pour secrétaire un de ses compatriotes, Samuel Beckett. Celui-ci, dont les premières œuvres sont marquées par un tel compagnonnage, recevra le troisième prix Nobel de l'homme littéraire irlandais en 1969.
Couleur FM.
Jean-Baptiste Hameau vient de sortir Règne animal, son troisième roman. Jean-Baptiste Hameau est un grand défenseur de la cause animale. Et voici un extrait du Règne animal. Des premiers soirs du printemps aux dernières veillées de l'automne, il s'assied sur le petit banc de bois clouté et vermoulu, à l'assise ployée sous la fenêtre dont le cadre détache dans la nuit et sur la façade de pierre un petit théâtre d'ombre. À l'intérieur, sur la table en chêne massif, une lampe à huile halète et l'éternel feu de cheminée projette sur les murs couverts de salpêtre la silhouette affairée de l'épouse. L'élance brusquement vers les solives où la brise sur un angle et cette lumière jaune hésitante gonfle la grande pièce puis crève l'obscurité de la cour, laissant le père contourné, immobile et sombre dans un semblant de contre-jour. Quelle que soit la saison, il attend la nuit sur le banc de bois, ce même banc de bois sur lequel il a vu son père prendre place avant lui et dont les pieds moussus et rompus par les ans sont à présent affaissés. Lorsqu'il y est assis, ses genoux remontent au quart de son ventre et il a peine à s'en relever, mais il n'a pourtant jamais envisagé de le remplacer, quand bien même n'en subsisterait qu'une planche sur le sol. il estime que les choses doivent rester telles qu'il les a connues le plus longtemps possible, telles que d'autres avant lui ont estimé bon qu'elles soient, ou telles que l'usage en a fait ce qu'elles sont. De retour des champs, il se déchausse, prenant appui contre l'encadrement de la porte, décrotte avec soin ses souliers, puis s'arrête sur le pas de la pièce où il hume l'air moite, la laine des bêtes, les senteurs rébarbatives de ragoût et de soupe qui embuent les fenêtres, comme s'il s'est tenu enfant, attendant que sa mère lui fasse signe de prendre place autour de la table ou que son père le rejoigne et le presse d'une bourrade dans l'épaule. Son corps long et maigre se courbe et prend à la base de la nuque un angle insolite. Son cou, si tanné qu'il ne pâlit pas, même l'hiver, reste gainé d'un cuir boucané, crasseux et semble brisé. La première vertèbre, pareille à un kyste osseux, saille entre les épaules. Il retire le chapeau informe, découvrant son crâne déjà chauve, tavelé par le soleil, le retient un instant entre ses mains, cherchant peut-être à se ressouvenir du geste qu'il lui faut désormais accomplir, ou espérant encore l'ordre de cette mère, depuis longtemps morte, ravalée et digérée par la terre. Devant le silence obstiné de l'épouse, il finit par se résoudre à avancer, traînant avec lui sa puanteur et la puanteur des bêtes, jusqu'au lit clos dont il tire la porte. Assis au bord du matelas, ou prenant de nouveau appui sur le panneau de bois ouvragé, il déboutonne entre deux quintes de toux sa chemise poisseuse. Le jour fini, il ne peut plus supporter non le poids de son corps dont la maladie a soigneusement rongé les graisses et les chairs, mais sa seule verticalité, et semble risquer à tout instant de s'abattre, de chuter comme une feuille, balayant d'abord l'air confiné de la chambre, de droite à gauche et de gauche à droite, avant de se poser simplement sur le sol ou de glisser sous le lit. Sur le feu, dans un chaudron en fonte, l'eau a fini de chauffer et la génitrice tend à Éléonore le broc d'eau froide. L'enfant marche à pas lents, craignant de faire déborder le récipient qui dégoutte malgré son attention sur ses mains et le long de ses avant-bras, imbibe les manches retroussées de son chemisier tandis qu'elle avance avec cérémonie vers le père. Elle sent sa nuque frémir sous le regard réprobateur de la génitrice qui la talonne et menace de déverser sur elle la cuvette d'eau bouillie si elle ne se hâte pas. Posée dans la pénombre comme un grand oiseau, les coudes plantés sur les genoux, ses bras et ses mains ballant devant lui, le père s'est abîmé dans la contemplation des nœuds du bois de l'armoire, ou celle de la mèche allumée sur la table de toilette et qui lutte contre les ténèbres. Reflétée dans l'ovale du miroir cloué au mur, elle offre une vision difforme et tout juste perceptible de la pièce. Par une ouverture pratiquée à hauteur de taille dans le mur de torchis, deux vaches passent la tête et ruminent. La chaleur de leur corps immobile et des déjections qui s'en déversent réchauffent les hommes. Dans leurs pupilles bleuâtres se reflètent les petites scènes jouées par eux à la lueur de la flamme de l'âtre. À la vue de l'épouse et de l'enfant, le père semble tiré d'une rêverie brumeuse, ramené dans ce corps malingre et veineux. Il trouve malgré lui la force de se mouvoir à nouveau. Il s'extirpe de la mauvaise couche, déploie le dos blafard, redresse le torse parsemé de poils gris, pris dans les sillons des côtes et des clavicules comme livré dans les emblavures. Son ventre se creuse, jauni par la lumière de la bougie. Il détend les bras aux coudes calleux et esquisse parfois un sourire. La génitrice verse l'eau chaude dans la bassine posée sur le meuble de toilette. Elle retire le broc des mains d'Éléonore, le dépose sur la tablette avant de s'en retourner à sa cuisine sans un regard pour le père, empressée de soustraire à ses yeux la vision de l'homme au torse nu et efflanqué, aussi étique que le Christ cloué à même la paroi du pied de lit. Du haut de la croix, il veille sur son sommeil et lui apparaît dans ses prières tardives et somnolentes, tout juste dessiné par un rayon de lune ou le reste tout sautant d'une chandelle dont la lueur se glisse par l'interstice de la porte du lit clos, effigie cloutée et mortuaire du père assoupi près d'elle et dont elle prend désormais soin de se tenir à distance, ne supportant plus ses suées nocturnes, ses os pointus, son souffle quinteux. Mais il lui arrive de penser qu'en se détournant de cet homme qu'il a épousé et engrossé, elle trahirait sa foi et se détournerait du Fils de Dieu lui-même. Poussée par la culpabilité, elle esquisse alors vers lui, l'époux, un regard, un geste de compassion brusque et rancuneux. Seule relève pour vider la bassine des glaviots sanguinolents qu'il expectore à longueur de nuit. Préparer un cataplasme de grains de moutarde ou une infusion de thym, de miel et de gnôle qu'il sirote adossé à la tête de lit, calé dans ses oreillers. Presque ému par cette sollicitude et prenant soin de ne pas boire trop vite pour lui témoigner sa reconnaissance, comme s'il se délectait de ces décoctions amères et inefficaces, tandis qu'elle piétine auprès de lui. Car déjà, l'image du père sur la croix s'est atténuée, emportant avec elle la culpabilité, et elle désire maintenant regagner au plus vite le lit et disparaître dans le sommeil. Elle s'en retourne, tasse ou bassine à la main, maugréant à voix si basse qu'il prend ses mots pour des lamentations contre sa nature maladive, contre cette affection chronique qui lui dévore les poumons depuis près de 10 ans, faisant d'un homme autrefois solide cet être dégingandé et las, tout juste bon pour le sanatorium. Puis, contre sa propre malchance ou l'acharnement d'un sort contre lequel elle lutte, elle qui a déjà soigné une mère infirme et mené 2 parents au tombeau. Lorsque le père se penche au-dessus de la bassine fumante, puise l'eau entre ses mains et la porte à son visage, Éléonore se tient en retrait, attentive à chacun des gestes de cette toilette, exécutée chaque soir selon le même ordre, à la même cadence, dans le cercle de lumière de la lampe. Si la génitrice lui commande de s'asseoir, elle observe du coin de l'œil la courbe de ce dos, le chapelet de la colonne vertébrale, le gant savonneux passé sur l'épiderme, les muscles endoloris, les mouvements avec lesquels il revêt une chemise propre. Habité par une grâce fragile, ses doigts courent le long de la boutonnière, comme les pattes tremblotantes des papillons de nuit, des sphinx à tête de mort, dont les chrysalides éclosent dans les champs de pommes de terre. Puis il se relève, s'attable, et lorsque la génitrice s'assied à son tour, il ramène devant son visage ses mains jointes, phalanges proximales intercalées, le regard disparaissant derrière la tranche des doigts aux articulations saillantes, aux ongles noirs. Il récite un bénédicité d'une voix engravée par la toux et il mange, enfin, dans le seul bruit de leur mastication, des couverts griffant le fond de leurs assiettes et du bourdonnement des mouches qui ne chassent plus des commissures de leurs lèvres, la génitrice ravalant à force de déglutition ce caillou logé contre sa glotte, l'irritation qui lui inflige les râles saliveux et les roulements de molaires échappés des lèvres de l'époux. De toutes les fonctions du corps, l'ingestion est celle que la génitrice exècre, elle qui retrousse jupes et jupons pour se soulager, jambes écartées, ou qu'elle se trouve au beau milieu d'un champ, dans la rigole d'une rue du village, ou à même le tas de fumier qui trône au beau milieu de la cour, son pissa ruisselant sur la terre, mélangé à celui des bêtes, et lorsque le besoin est autre, s'écarte à peine derrière un fourré pour s'y accroupir et déféquer. Elle n'ingurgite que de maigres rations, de bouchées avares, avalées à contre-cœur avec une moue de dégoût ou d'immédiate satiété. L'appétit des autres l'écœure plus encore. Elle fustige l'enfant et l'homme qui ont appris à manger le regard bas et, lorgnant la fille d'un œil soupçonneux, rappelle au père lorsqu'il réclame piteusement un nouveau verre de vin, comment Noé ivre se dénuda devant ses fils et comment Lot commit l'inceste. Elle s'impose des jeûnes qui durent des jours, des semaines. Elle ne s'autorise que quelques gorgées d'eau lorsque la soif la tenaille. L'été, elle décrète faire des économies et ne plus se nourrir que de mûres ou de fruits du verger.